Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure du crime avec Perrine Suquet, Margot Agnès. Aujourd'hui, c'est Sébastien Rocheron qui est à la technique de l'heure du crime. Et à la une de notre émission, une affaire extraordinaire au sens propre du terme, qui nous a fait découvrir un auditeur de cette émission. Vous savez, sur RTL.fr, vous dit signalez-nous des affaires qui vous ont particulièrement frappé. Et j'ai reçu de Philippe un message extrêmement court. L'affaire du docteur Bougra, Marseille, Cayenne, Caracas, incroyable dans son humanité finale à Illa Margarita. Merci d'avance, Philippe. C'est moi qui vous remercie, mon cher Philippe. En face de moi, Christian Dedé, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous revoir, si j'ose dire, parce que vous avez une longue carrière d'écrivain et on avait eu l'occasion, en d'autres lieux, de se retrouver de part et d'autre d'un micro pour parler d'un de vos livres, peut-être un de vos plus grands succès, La mémoire du fleuve. Vous êtes l'auteur du livre qui s'intitule « Le secret du docteur Bougra » qui est paru chez Phébus. Évidemment, on est tombé sur vous parce que quand l'éditeur nous a signalé le docteur Bougra, Cayenne, etc., on a regardé sur Internet, on est tombé évidemment sur vous. Très rapidement, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que tout démarre en 1925 à Marseille par une histoire de meurtre dont nous allons évidemment reparler dans un instant. Un procès retentissant, mais des polémiques également retentissantes. Une condamnation qui envoie, parce que nous sommes donc en 1925, qui envoie l'auteur du crime au bagne de Cayenne, une évasion extraordinaire, et cette évasion est le début finalement d'une destinée aussi extraordinaire. On sait maintenant, et on va le dire tout de suite, Christian Dedé, que le docteur Bougra a été victime d'une terrible erreur judiciaire.
Oui, une erreur judiciaire qui peut s'expliquer aujourd'hui à la lumière de tout ce que la médecine nous a apporté depuis. J'ai, dans le livre auquel fait allusion Philippe, dont vous parliez, et qui sous-titre très bien les sous-titres du livre, qui les souligne très bien, Marseille, Le Bagne et Caracas. À l'époque, le docteur Bougra était un homme parfaitement, comme tout le monde à Marseille, qui soignait ses clients, et qui un jour a perdu la tête à un malade étant mort entre ses mains.
On va raconter ça en détail.
Voilà, ouais. Nous le raconterons en détail. Donc, ouais. C'était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un accident thérapeutique. Ouais. J'en ai établi tout le cheminement scientifique et tout, apporté toutes les preuves dans le secret du docteur Bougra. Je crois que maintenant, on ne peut plus revenir sur la question. C'est le livre exhaustif et on ne peut que s'y référer avec... J'ai eu toutes les collaborations, les descendants du professeur Barral et toutes les personnes qui ont établi le dossier.
Et une enquête personnelle qui
m'a amené au bout du monde. C'est ça. Et à découvrir un merveilleux pays qu'est le Venezuela. Voilà. Alors donc, Bougra, affaire considérable, erreur judiciaire, oui, imputable dans le contexte de l'époque. Les années 20-30 étaient extrêmement tourmentées au point de vue politique. La politique s'en est mêlée, le dossier a été explosif, on a introduit des quantités de choses dont nous allons parler dans la procédure, ça a été odieux. Et Bougra, qui lui-même ne savait pas très bien ce qui lui arrivait et qui avait perdu la tête, s'est retrouvé bagnard après avoir été un médecin honorable de Marseille.
Et Bougra, victime, il faut bien le dire aussi, alors sinon de sa mauvaise réputation, en tout cas de sa réputation à Marseille. Alors on va commencer à dresser le tableau et le portrait de ce personnage. C'est un médecin qui a fait la guerre de 14, c'est un héros de,
oui,
de
héros,
la guerre
absolument.
De 14.
Hein,
ouais. Il a été blessé.
Blessé 14 fois.
Voilà,
il a sauvé des camarades de combat sous la mitraille, il a fait Salonique, il a fait le chemin des dames. Enfin, ouais. Il a été un combattant glorieux. Et après... archi-décoré, médaille militaire, croix de guerre, légion d'honneur à titre militaire.
Et c'est ce médecin donc qui s'installe comme médecin généraliste à Marseille. Alors c'est un homme qui aime bien vivre aussi, il faut le dire, parce que à Marseille il va se marier, il a des enfants, bon, mais en même temps c'est une espèce de don Juan, il adore les boîtes de nuit et les jolies pépées,
oui.
Si vous me passez l'expression.
Oui, Jacques Pradel, mais alors resituons ça dans le contexte
de
l'époque.
Mais moi c'est pas une accusation, hein,
non,
on peut
non,
pas
non.
Le procès.
Loin de moi de condamner que ce soit. J'approuve Bougrat dans toutes ces actions-là. Non, Bougrat était un Lyonnais. Oui. Il était médecin de la faculté de Lyon, son père professeur à Lyon. Il était à Marseille, avait fait un très beau mariage avec la fille d'un des principaux membres de la faculté de médecine de Marseille. Ouais. Il avait été un glorieux combattant, comme on l'a dit. Il avait perdu la vue, il a recouvré la vue quelques temps après. Enfin, il avait eu des blessures assez terribles. Mm-hmm. Et il avait surtout vu l'horreur de cette tuerie dont les vidéos qu'on nous projette aujourd'hui donnent une idée précise, mais qui est encore plus considérable. Ouais. L'horreur inimaginable.
On comprend à travers ce que vous dites qu'effectivement on a envie de profiter de la vie quand on s'en est sorti.
Voilà Jacques Pradel pourquoi je vous disais qu'il faut remettre dans le contexte. Bougrat venait d'être libéré de cette tuerie, il a tenu jusqu'au bout, il a été combattant jusqu'à l'armistice après ses blessures et il retournait au front et il s'est trouvé pris dans les années folles à Marseille, marié avec une très jeune femme avec qui il s'est plus ou moins bien entendu parce qu'il y avait une différence d'âge. Mmh. Il a été entraîné au divorce. La belle famille l'a un peu bousculé dans Marseille. Cette jeune femme, donc, après s'est comportée vis-à-vis de lui, l'a accablé par la suite. Mmh. Et Bougrat menait ce qu'on appelle la vie un peu de... faisait la noce, comme on faisait beaucoup dans les années folles après la tuerie de 14-18. Mmh. Et il a fréquenté des gens plus ou moins recommandables à ce moment-là.
Alors,
D'où la mauvaise réputation. Voilà. Et en plus, il vivait avec une prostituée une fois qu'il a eu divorcé.
Voilà. Et il avait l'argent facile. Et puis il a eu des problèmes d'argent. Et puis il y a eu quelque chose qui va jouer contre lui terrible, c'est que sortir de ses affaires d'argent, il va faire une escroquerie. Il va faire en tout cas des chèques sans provision.
Il faisait des chèques en bois, oui.
Voilà. Ouais. Bon. Et alors petit à petit, avec cette vie-là, ce que vous venez de décrire, ses amis s'en vont les uns derrière les autres un peu, mais il en reste un en tout cas qui est là, qui est à la fois son ami et son patient, qui s'appelle Jacques Rumeb.
Oui, ancien compagnon de tranchée.
Voilà, donc, et ils sont retrouvés à Marseille. Et Rumeb, lui, travaille pour une société privée comme comptable.
La société des céramiques.
Ouais, et également comme transporteur de fonds. Et là, on est vraiment, on a dressé le tableau du drame qui va arriver parce que un jour Jacques Rumeb part chercher l'argent qu'il doit transporter et il disparaît. Sa famille va appeler la police va faire son enquête et cette enquête, vous allez nous le dire dans un instant après une première pause, cette enquête va les mener tout droit, non pas directement d'ailleurs au docteur Bougrat, mais au cabinet du docteur Bougrat.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
À la une de notre émission, la véritable histoire du docteur Bougrat, peut-être l'un des moins connus des bagnards de Cayenne, dont avant le livre de Christian Dedet, mon invité, qui a publié aux éditions Phébus le secret du docteur Bougrat, dont on avait très très peu entendu parler jusqu'à présent. Alors, on est en 1925, on est ce fameux jour du 14 mars 1925, où le drame va se jouer. Rumeb, dont on a parlé il y a un petit instant, vient voir son ami, mais cette fois-ci comme patient. Il le soigne. Alors, est-ce qu'on sait exactement pourquoi il le soigne ? Parce qu'il doit lui faire des piqûres régulières.
Il y a eu des polémiques à l'époque. Est-ce qu'il devait recevoir les piqûres que faisait Bougrat ? Rumeb avait-il la syphilis ? Ne l'avait-il pas ? Il est probable qu'il ne l'avait pas.
Il était pensé.
Oui, c'est-à-dire il avait fait lui aussi Salonique, la guerre en Orient et tout. Mm-hmm. Et Bougrat était au point de vue médecin, choqué par la guerre, il était un peu fantasque.
Ouais,
et je pense, alors là, j'ai eu j'ai échangé quelques paroles à ce sujet avec les descendantes de Rumeb, qui, elles, se dressaient contre l'idée que Bougrat était toujours
l'assassin de leur ancêtre.
50 ans plus tard, était toujours l'assassin impardonnable. Et donc, était-il abusif de lui faire un traitement contre la syphilis ? Était-il justifié justifiait. Voilà. On ne peut pas rentrer dans ces détails. Il est possible que ce n'était pas justifié. Mmh. Mais ça se faisait beaucoup à l'époque. N'oublions pas que le novarsénobenzol, qui était le traitement de la syphilis, était donné quelquefois simplement pour requinquer les gens.
Mmh. Alors, en tout cas, ce jour-là, il lui fait effectivement une injection de ce produit.
Comme chaque semaine.
Et puis, Rumeb repart. Ben, il faut qu'il aille porter son argent. Et il revient. Il revient quelques heures plus tard. Il est catastrophé. Et il explique à son ami, le docteur Bougrain, que bah, il ne sait pas comment s'en sortir, mais on lui a volé l'argent qu'il transportait.
Alors ceci, ce serait la version qu'avait, pour se défendre, a mis voilà. en avant Bougrain tout
oui,
d'abord.
Voilà.
Bon. Parce que, ouais. bon, la réalité historique, c'est que Rumeb a succombé à une réaction anaphylactique du novarsénobenzol.
Mais avec quelques heures de décalage.
Ce qui se produisait d'ailleurs à l'époque, mm-hmm. mais on le disait très peu et c'était ouais. mal connu.
Il n'est pas mort tout de suite dans le cabinet, il a eu le temps de repartir et de revenir.
Mais c'était le cas de cet accident nosocomial, ouais. ouais. ça arrivait comme ça.
Ouais.
Mais Bougrain ne le savait pas, on ne le savait pas à l'époque.
Ouais.
Il a perdu la tête et comme il se savait poursuivi pour des chèques sans provision, qu'il avait une mauvaise vie, etc.
Ouais.
Il s'est dit, bon, que va-t-on me reprocher ? Il a mis le cadavre dans le placard et il ouais. pensait qu'après, il faudrait enlever le cadavre par quelqu'un. Voilà,
ça
a été le drame. Et c'est ouais. là que Bougrain mm-hmm. s'est littéralement
ouais.
noyé.
Ouais. Il dit, en tout cas, il fait la piqûre à son patient. Ce patient s'en va. Ce patient revient en lui disant, j'ai perdu l'argent. Bougrain ressort de son cabinet en lui disant, je reviens, je vais essayer de voir si on ne peut pas te prêter de l'argent, etc. Il ne trouve pas. Il revient au cabinet et Rumeb est mort. Et à ce moment-là, il fait ce que vous venez
Absolument.
De dire, il le met dans son dans le placard. Bon, un cadavre dans le placard. Et puis, évidemment, entre-temps, alors il se passe quelques jours, là, et la famille de Rumeb, qui ne le voit pas revenir, signale sa disparition à la police. La police fait son travail, elle le faisait en 1925 comme aujourd'hui. On commence par l'environnement Bien. De la victime supposée, ou de la personne sur qui on enquête. Dans l'environnement, on trouve évidemment le docteur Bougrain, et la police débarque au cabinet du docteur Bougrain. Mais en même temps, il y a eu, je crois, des voisins du docteur Bougrain qui eux-mêmes avaient appelé la police pour dire qu'il y a une odeur désagréable depuis quelques jours.
Les domestiques de Bougrain dans sa propre maison de la rue Sénac à Marseille.
Oui.
Et donc là, le processus s'est enclenché et le processus fatal s'est enclenché car le commissaire Robert, qui était à l'époque donc chargé de l'enquête,
oui.
Et dont j'ai très bien connu le fils, Philippe Robert, qui m'a donné tous les dossiers de son père et tous les dossiers de l'évêché.
Ouais.
On appelait l'évêché l'hôtel de
Qu'on
police à Marseille.
Toujours l'évêché.
Ouais. Et donc, j'ai toutes les archives secrètes qui n'auraient pas dû sortir, mais je ouais. les ai, je revendique.
Et là, Robert,
à l'odeur, est allé vers le placard avec son assistant et tout, et ils ont ouais. trouvé le cadavre de Rumeb.
Voilà. Donc, mais bon sang, mais c'est bien sûr, il y a de l'argent qui a disparu, il y a un médecin qui, par ailleurs, est sous le coup de poursuites pour chèques sans provision.
Mais on n'a pas trouvé la sacoche, là, c'était...
Et on n'a jamais trouvé la sacoche.
Bon. Et Bougrain a toujours ouais. soutenu par la suite qu'il avait exécuté, malheureusement et contre sa volonté, ce pauvre Rumeb, ouais. mais qu'il n'avait pas volé.
Voilà.
Il a toujours dit, et même plus tard à Caracas, quand il ne risquait plus rien.
Voilà. Alors donc, il est arrêté, hein, le docteur Bougrain. Il proteste de sa bonne foi, on l'a compris. Mais ça se passe très très mal parce que bah, tout est... Il a les habits du coupable idéal, il faut
idéal,
bien le
absolument.
Dire.
Absolument. Et alors la rumeur de Marseille...
Tout le monde l'enfonce.
Et alors ce que j'appelle la rumeur de Marseille s'est déchaînée. On lui a prêté immédiatement des assassinats de braves dames, des viols, des guet-apens, même un bijoutier, le bijoutier arrive. Rietti a dit qu'il avait échappé belle parce qu'un jour, Bougrain contestait pour l'achat d'une bague, etc. Il avait vu qu'il y avait des malfrats dans la rue qui attendaient. Enfin, un délire de rumeurs.
Voilà, et de lettres anonymes.
Et de lettres anonymes. Alors
également.
Là, ça a crépité dans les boîtes aux lettres de la police.
Alors, peut-être la malchance aussi, autre malchance pour le docteur Bougrain.
Et puis surtout la maladresse de Bougrain, parce que...
Oui, parce qu'il se défend mal, il s'embrouille dans ses explications.
Il fallait qu'il soit timbré par sa guerre. Et c'est ce qui s'est probablement passé.
Alors, j'allais dire, l'autre malchance de Bougrain, c'est la personnalité du juge d'instruction. Parce que on demande immédiatement une analyse, évidemment, toxicologique, ou en tout cas, on veut connaître les causes de la mort. Et les experts sont catégoriques tout de suite, puisque là, j'ai ce passage sous les yeux. Les experts concluent à un accident thérapeutique, à une réaction pathologique, je lis là, au traitement dispensé par Bougrain, qui ne saurait, disent-ils, en ces circonstances habituelles, provoquer la mort.
Absolument. Le professeur Barral de Lyon, qui était une éminente personnalité, une sommité scientifique, confirmé par le professeur de Grèce de Paris de l'Institut, ont conclu qu'il n'y avait ni arsenic, ni mercure, ni alcaloïde, ni acide cyanhydrique, ni tout ce fameux acide prussique qu'on a soi-disant dit qu'il l'aurait tamponné avec un coton dans la narine pour faire passer plus vite. Mais on a inventé de tout et toute la science a dit Bougra est innocent.
Voilà, mais le juge ne le croit pas. Le juge d'instruction va instruire uniquement à charge.
Alors, le juge était monsieur de Pocel, qui était une espèce de bonhomme ignoble, qui courait dans toutes les circonstances où il pouvait assister à des exécutions capitales, enfin un acharné de poursuivre le mal, un homme qui ramassait dans les poubelles par économie du mou pour les chats de sa famille, etc. Enfin, le juge Pocel était horrible. Et il convoquait tous les avocats et tous les gens des procédures dans des couloirs glaciales pendant des heures pour les faire attendre par plaisir.
Oui, c'est
et
ça.
Ce juge de Pocel...
Il prenait son journal, il allait lire le journal et boire un café
non,
à côté.
Il prenait de préférence le journal de son voisin de façon à économiser les 4 sous du journal.
Voilà.
Et il avait l'habitude de laisser les gens en détention provisoire le plus possible.
Ouais.
Bougra est resté en détention provisoire 456 jours. Un an et demi en détention provisoire.
Sans acte réel d'instruction, en fait.
Aucun, pour le faire macérer et pour lui fournir des moutons.
Alors, le mouton, on va en parler dans un instant. Voilà. Parce que là, c'était évidemment le piège. On envoie dans la cellule voisine de celle du docteur Bougra, un mouton, c'est-à-dire quelqu'un qui est là à la fois pour parler avec lui, pour essayer de lui tirer les vers du nez.
Un agent double.
Voilà, mais aussi peut-être pour tout simplement lui tendre un piège terrible dans lequel Bougra va tomber. On en parle dans un instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et l'invité de l'heure du crime aujourd'hui, Christian Dedet, qui est le biographe avec un L majuscule du docteur Bougra, ce médecin pris dans une histoire de mort suspecte d'un de ses patients, qui va être accusé de meurtre et puis ensuite envoyé au bagne de Cayenne, où commence là un autre destin finalement tout à fait aussi extraordinaire que ce qu'il avait, même plus extraordinaire que ce qu'il avait vécu au départ. Je voudrais juste une toute petite parenthèse très rapide, Christian Dedet. Vous êtes médecin de formation, vous êtes écrivain, vous êtes médecin.
J'ai écrit de nombreux livres littéraires, j'ai toujours exercé la médecine à mi-temps.
Est-ce que c'est pour cela que vous avez eu envie de vous intéresser au destin funeste d'un confrère?
Un peu, mais c'était surtout parce que j'ai connu des personnes qui avaient touché de très près à cette histoire.
D'accord.
Et j'ai eu des documents de première main, et c'est ce qui m'a incité à le faire.
Voilà,
mais aussi l'enthousiasme devant cette histoire, parce que c'est une aventure prodigieuse.
Voilà. Et une aventure que vous avez vécue.
Qui ne s'arrête pas au bagne, qui se continue au Venezuela.
Et vous-même, vous avez vécu, donc c'est une enquête...
Que j'ai suivi pas à pas dans la brousse, j'ai même descendu le Maroni pour ça.
Bon, alors, on y viendra tout à l'heure. Mais tout de suite, on est donc toujours à Marseille. Le docteur Bougra est inculpé de meurtre. Il est en détention provisoire, une détention provisoire qui va durer 450 jours et quelques. Et on place dans la cellule d'à côté le mouton, c'est-à-dire un malfrat, un voyou, quoi.
Un escroc, un bouffon.
Gautier
dit de roi, qui se dit Gautier de roi. Alors, ce Gautier de roi, il a une face de pleine lune, il a des espèces de monocles ridicules. C'est un homme qui dirige une petite revue de cagots et de bien-pensants, qui vend la roche miraculeuse de la Vierge de je ne sais quoi, et qui est condamné plusieurs fois pour escroquerie, qui porte des médailles de la guerre qu'il n'a jamais faites. Alors, cette espèce d'ordure de bonhomme est sortie par le juge de Pocel comme la providence, et il le place dans la cellule pour faire dire à Bougra 36 choses.
Alors lui, Gautier, va proposer à Bougra de lui faire des de fausses lettres.
De faux alibis.
Pour avoir un faux alibi, etc.
Bougra qui s'enquiquine pendant 400 jours, a le temps d'écouter tout ça, et ça tourne même au canular de prison, parce qu'ils veulent fonder ensemble un omnium du Congo. Alors Bougra rigolait beaucoup, mais il n'était pas idiot quand même, il a pris la précaution
de marquer
à petits coups d'épingle et avec de l'encre sympathique ce que lui faisait faire Gautier de Roy.
Et ça va lui servir, parce que quand le juge va faire une confrontation avec les deux, en disant,
avec
mais comment
voyous.
Vous avez avec les voyous, Bougra va avoir un beau jeu.
en plein tribunal.
Aidé de son avocat.
Aidé de ce merveilleux avocat qui était Stéphanie Martin, un avocat corse de Marseille qui a pris cette défense à cœur, qui a été extraordinaire dans l'affaire Bougrat, et dont j'ai bien connu, non pas lui qui était mort, mais sa veuve. J'ai eu tous ses dossiers.
Ouais. Ils vont en direct faire apparaître les lettres qu'il avait écrites avec du citron, je crois.
Absolument, voilà, oui. Et puis
à l'écriture sympathique.
L'écriture sympathique.
Ce qui voulait bien dire.
Confusion du tribunal et hurlements de toute la salle, qui était comble. Ça a été un des procès suivis par le tout Paris. Il y avait Géo London, il y avait toute la Léon Daudet, toute la l'époque, l'UMA.
Alors ça montrait donc. Alors on avait les expertises des médecins qui disaient c'est un accident thérapeutique. On avait finalement la preuve matérielle que on avait essayé de tendre un piège à Bougrat dans lequel il n'était pas tombé. Pourtant, il va être condamné à la perpétuité quand même.
Alors à l'époque, Bougrat a été condamné à la perpétuité. La tête sauvée de justesse par son avocat Steve Martin, qui a fait une plaidoirie émouvante, prodigieuse.
À cause de ses états de
absolument. Mais les juges n'avaient même pas voulu entendre le colonel Malandrin, qui était, lui, un compagnon de tranchée, qui disait Bougrat était un héros. On ne voulait pas l'entendre.
Oui, mais alors l'avocat est formidable, parce qu'à ce moment-là, il arrête tout. Il dit, attendez, monsieur le président, vous venez de passer je ne sais pas combien d'heures à écouter
des voyous.
Et vous ne voulez pas écouter un général de l'armée française.
Absolument. Et alors il y a eu là-dessus des hurlements dans la presse qui a trouvé au coude à coude pour s'insurger contre ces entorses à la vérité, Léon Daudet de l'Action française et les communistes de l'Humanité. Donc, à l'époque, ça a été un procès qui s'est très vite teinté de politique.
Alors, donc, le résultat, malheureusement pour Bougrat, il est condamné à la perpétuité, il sauve sa tête à cause de ses états de service, on l'a dit.
De service et de l'excellente plaidoirie de son avocat fait pleurer tout le monde.
Ça veut dire qu'il va partir pour le bagne à Cayenne, avec une première étape Saint-Martin-de-Ré, puisque c'est de là que partaient les bateaux.
Le bateau La Martinière qui a mené les forçats au bagne.
Alors, évidemment, je renvoie tout le monde à votre livre, parce que j'ai presque honte d'aller si vite, parce qu'il y a tellement de choses à raconter sur ce personnage, mais on va continuer à donner l'odeur de l'aventure qui flotte maintenant au-dessus du docteur Bougrat. Il va découvrir évidemment la réalité du bagne, on va lui raser la tête, enfin bon, il subit évidemment l'humiliation qui est réservée à tous les bagnards et qui est fait pour les mater. Il va avoir quand même une chance dans son malheur, c'est que comme il est médecin, même bagnard, on a besoin de médecins au bagne de Cayenne.
Le médecin-chef Rousseau le nomme médecin, à sa grande surprise, car il était dans les abîmes de la détresse. Et ça a été pour lui un premier pas de résurrection, quand ce magnifique médecin, le docteur Rousseau, qui a eu une humanité extraordinaire dans le cadre tout à fait inhumain du bagne, a pu faire retourner Bougrat à l'exercice de la médecine, ce qui était sa vocation profonde.
Voilà, et Dieu sait s'il y avait des gens à soigner, évidemment, avec les...
Et avait des moyens du bord qui étaient absolument désastreux, c'était scandaleux à l'époque, je vous renvoie pour ça à toutes les enquêtes de Londres et
D'Albert Londres,
de cette époque.
Enfin, il y avait quand même deux vieux microscopes dans un coin. Et alors, Bougrat a refusé une chose, quand même, au bagne, il voulait pas faire lui-même les piqûres.
Les piqûres de... Oui. Absolument. Quand il y a eu l'affaire des piqûres de arsénobenzol, il ne voulait plus les faire.
Allez-y, faites-les.
Il fait l'affaire par l'infirmier ou en présence de l'infirmier.
Et alors, Bougrat, en fait, l'autre chance, alors la chance, c'est qu'il mange deux fois par jour. Ce n'est pas le cas de tous les bagnards.
Il peut circuler dans Saint-Laurent.
Voilà, il n'est pas habillé en bagnard. Enfin, en tout cas, il a le droit de porter la blouse blanche.
C'était Saint-Laurent du Maroni, on dit toujours Cayenne, mais le bagne, c'était les îles du Salut. Et c'était le Saint-Laurent du Maroni. Cayenne, il y avait peu de choses à cette époque.
Et là, il a décidé de s'évader. De toute façon, d'ailleurs, quelqu'un lui a dit,
Vous êtes un forçat de 5 mois.
Pourquoi
5 mois? Parce que ceux qui sont vraiment, qui ont de la tripe et qui veulent s'en sortir, ils foutent le camp avant 5 mois.
Voilà. Et c'est ce qui va se passer, d'ailleurs.
Et c'est ce qui s'est passé réellement.
Et parce qu'il faut des vêtements civils, il faut un plan, il faut. Alors, il va à la bibliothèque. Il apprend par cœur la découpe des côtes.
C'était un homme extrêmement intelligent, cultivé, et puis alors, valeur sportive. Ouais. C'était, il était taillé à un athlète, d'ailleurs. Voilà. C'est pour ça qu'il s'en est sorti. Ouais.
Hein, il ne boit pas de vin, il vend son vin 14 centimes.
À ses infirmiers qui le revendent.
À ses infirmiers qui font le trafic.
Ça lui permet de s'acheter un pantalon qui ne soit pas rayé.
Voilà, et de préparer, effectivement, son évasion.
Son évasion.
Alors, on va faire une pause, et puis ensuite, vous allez nous raconter, et là, je vais m'abstenir de vous poser des questions, cette évasion absolument extraordinaire qui a lieu, effectivement, 5 ou 6 mois.
5 mois, exactement.
Comme on le lui avait prédit, donc. Et c'est une évasion qui va le mener, après un périple très, très agité en bateau, à voile, ou en bateau, en tout cas, jusqu'aux côtes du Venezuela.
L'heure du crime sur RTL.
L'heure du crime avec à la une aujourd'hui l'extraordinaire histoire du docteur Bougrain et Christian Dedet qui est mon invité, Christian Dedet qui a publié chez Phébus la véritable histoire de cet homme, l'histoire même qui n'était pas connue à son époque puisqu'on le disait en commençant cette émission et vous le dites dans Le secret du docteur Bougrain qui est le titre de votre livre. Maintenant on sait de façon catégorique que cet homme a été victime d'une terrible erreur judiciaire. Alors, on disait tout à l'heure, il n'est pas très connu parmi les bagnards. Il faut dire qu'il ne reste pas trop longtemps. Et comment va-t-il réussir à s'échapper? Est-ce qu'il va s'échapper avec plusieurs autres bagnards, dont Guillaume Cézenac, hein?
Oui, alors au cours. Ah non, pas avec Guillaume Cézenac. Ils ne se sont jamais vus.
Ah bon, qui a inventé ça? J'ai lu ça quelque part.
À l'époque, Denis Le Herre a raconté ça.
On ne prête que riche. Attendez, juste un mot comme ça. Mais pour expliquer à ceux qui nous écoutent pourquoi je dis ça, j'ai lu quelque part que Cézenac était parti avec eux, mais qu'il avait capitulé et qu'il s'était rendu, il était retourné au bagne, etc., alors que Bougrain partait.
Alors, des légendes et des racontars, Yana, écoutez, j'ai épluché toute la presse de l'époque, c'était incroyable tout ce qu'on racontait sur les évasions, c'était des véritables romans rocambolesques, tragiques, etc., etc. Alors, Bougrain est parti de Saint-Laurent-du-Maroni, après avoir préparé avec un compagnon un vrai tueur, un vrai malfrat, deux autres comparses, un indien nommé Jésus, et ils étaient quelques-uns qui ont eu ce qu'on appelait la voiture, c'est-à-dire une pirogue, un bateau, pour partir. Le premier bateau était en mauvais état, ils n'ont pas pu. Ils se sont réfugiés dans la forêt. Bougrain est allé passer quelques semaines dans la forêt chez les Indiens Galibus, où je suis allé moi aussi dormir dans le hamac et faire.
J'ai voulu voir ce qu'il avait vécu.
D'ailleurs, toutes les parties du bagne et tout, et il y a de nombreuses parties du livre que je raconte à la première personne.
Oui,
tellement je m'étais mis dans la peau du personnage qui était. On pouvait imaginer cette espèce d'effroyable détresse et cette extraordinaire espérance qu'il avait dans la. Alors on appelait ça la belle et ils ont réussi à partir, à faire la belle après quelques semaines chez les Galibis et ils ont fait une traversée absolument ahurissante, des tempêtes,
incroyables.
Mais Bougrain avait des notions de navigation. À Marseille, autrefois quand il était jeune, il naviguait, il avait un petit voilier et tout. Et ils ont atterri.
12 jours de mer.
12 jours de mer et atterri dans des conditions incroyables du côté de Carupano au Venezuela sur une plage déserte où une pauvre femme, en les voyant arriver, a eu tellement peur de leur barbe et de tout qu'elle est partie en hurlant. Et donc, eux ont loué le Seigneur d'être arrivés sur une terre ferme comme les conquistadors espagnols au XVe siècle.
Ouais. Sa préparation d'évasion, enfin, il a été aidé parce que c'est quand même extraordinaire pour quelqu'un qui n'est pas un vrai malfrat d'arriver que la première évasion soit la bonne.
Mais alors, Bougrain avait gardé des souvenirs de sa vie des années folles à Marseille, il avait assez fréquenté les malfrats. Et c'était pas un innocent quand même. Il était sincère dans le fait qu'il n'avait pas tué Rumeb. Mais c'était un homme quand même qui avait prêté à beaucoup de légèreté, D'ailleurs, j'en ai parlé longtemps avec sa fille. Par la suite, elle dit « Oh, mon père, il était comme ci, comme ça.
»
Et elle-même, d'ailleurs...
C'était quand même un peu dur aussi.
Et j'ai bien connu sa fille qui est morte il y a quelques années, qui m'a d'ailleurs donné tout blanc-seing pour défendre la mémoire de son père, si je pouvais faire réviser un jour, ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour, ce qui le viendra peut-être. Mais donc il y avait un côté un peu loufoque, il avait un grain au plafond quand même, Bougrain, qui explique qu'il se soit conduit comme il s'est conduit au lieu d'appeler la police en disant ce type m'a claqué entre les mains. Alors Bougrain donc était un homme qui avait suffisamment vécu à Marseille dans des milieux louches, il soignait les prostituées de Marseille aussi avec sa spécialité de syphilis.
Et il avait épousé une prostituée d'ailleurs.
Pas épousé, non, mais il vivait avec André Audibert, qu'il a trahi dit d'ailleurs au moment du procès. Ouais. Et donc, il avait suffisamment de liberté de circuler dans Saint-Laurent pour fréquenter le village chinois.
Ah, voilà, c'est ça.
Et au village chinois, on trouvait tout ce qu'on voulait avec les Chinois.
Avec un peu d'argent.
On trouvait une pyro avec un peu d'argent, voilà. Un peu ou beaucoup d'argent.
Ouais, ouais. Et il a réussi donc à trouver de quoi financer son
évasion. Il avait sa chaîne de solidarité.
Alors, on disait tout à l'heure qu'il est un des bagnards emblématiques les moins connus par rapport à Cézanne.
Non, il est très connu, mais un peu moins connu, oui.
Alors, un peu moins connu que Cézanne.
Le plus connu, ça a été Papillon, qui était lui un petit souteneur sans intérêt, mais dont le gigantesque succès a fait qu'il est très connu.
Ouais.
Cézanne a été très connu parce qu'on s'en est occupé beaucoup, il a Solidarité Bretonne, il y a des quantités de choses, alors que Cézanne était quand même un trafiquant des stocks militaires de la guerre de 14. Il s'était pas fait fracasser le crâne comme Bougra.
Ouais.
Et Bougra, lui, est le troisième des grands bagnards historiques, mais un peu en retrait par rapport aux deux autres, parce qu'il n'y a eu ni film.
Il n'y a rien eu sur lui.
Mon livre a été la première circonstance où on met Bougra vraiment à sa place.
Ben, moi, j'espère qu'il y a des producteurs de cinéma ou de télévision qui écoutent l'émission aujourd'hui. Jetez-vous sur ce livre.
Il y a eu une ou deux options qui ont été prises, qui n'ont pu être levées à la dernière tout récemment. J'espérais que ça allait aboutir. Mais
ça viendra, à mon avis, parce que la vie est tellement riche.
Ça ne peut pas ne pas venir.
Et
avec
alors, à propos de bagnards, il y avait un autre bagnard, moi, j'avais découvert par les émissions aussi, qui s'appelait Belle Benoît, qui avait écrit La Guillotine Sèche.
La Guillotine Sèche,
Et ce bagnard s'était plaint par la suite en disant, mais Henri Charrière, Papillon, le fameux Papillon, a tout s'est inventé un rôle qu'il n'a jamais joué.
Il
disait qu'il était inspiré de ses propres évasions. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose pour Bougra et Papillon? Est-ce que Papillon s'est inspiré ou pas? En tout cas, vous allez entendre un document qu'on a retrouvé dans les archives sonores de la rédaction d'RTL, et c'était déjà RTL, le 18 mai 1969. Ce jour-là, Pierre Dumayet présente sur notre antenne le livre de Papillon qui va devenir un best-seller mondial, 12 millions d'exemplaires.
Et qui est admirable d'ailleurs, et qui a été en grande partie rewrite, disons plutôt écrit par Castelnau, à qui il faut rendre hommage.
Eh bien voilà, c'est fait. Et en tout cas, vous allez entendre dans cet extrait, Henri Charrière raconte à Pierre Dumayet dans quelles circonstances il avait pu mettre au point son évasion au bagne, en faisant quoi, je vous le mets en mille, en se faisant hospitaliser à l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni. Vous avez dit bizarre.
Quand je suis arrivé au travaux forcés à perpétuité, je sais que je suis interné à vie par un ami à moi qui se trouvait déjà au travaux forcés et qui était infirmier là-bas et qui m'avertit. Grâce à lui, je peux rentrer à l'hôpital, espérant que de l'hôpital, je pourrais m'évader avant de prendre le bateau pour aller aux îles du Salut, où il est extrêmement rare qu'une évasion réussisse. Il fallait faire très vite. 48 heures après, j'étais à l'hôpital. Malheureusement, l'administration pénitentiaire, quand elle tient quelqu'un, le tient bien. Ce qui fait que quand j'arrive à l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni, au lieu d'être mis dans une salle où il n'y avait pas de barreaux, je rentre effectivement dans une forteresse. Les barreaux des fenêtres, c'était des rails de chemin de fer. Alors pour les couper, c'était un peu long. Grâce toujours aux complicités d'amis, je peux prendre contact en passant à la radiographie avec un libéré qui, lui, on lui avait fait un faux bond pour venir passer à la radiographie. Comme si c'était lui-même aussi qui était malade et que par hasard on se trouvait à la même heure, au même moment, pour passer la radiographie. Dans ces 20 minutes que nous avons de contact, il me promet de me préparer un bateau quand il n'y aura plus de lune derrière l'hôpital. Il ne s'occupe pas de l'évasion interne. Il me prend en charge que quand j'arrive à son bateau. Or, l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni, il est au bord du fleuve du Maroni. Il touche presque le fleuve. Il y a peut-être 3 ou 4 mètres, un petit chemin qu'il y a. Ce qui fait que si j'arrive à sauter le mur et à sortir, surtout à sortir de cette grande salle, qui est toute blindée d'ailleurs, c'est à peu près la liberté, tout au moins la chance de jouer ma liberté sur 3000 km de mer qui m'attendent.
Voilà, je voulais qu'on entende la voix de Papillon, de Charrière. Beaucoup de gens ont dit qu'il s'était véritablement inspiré de beaucoup d'autres histoires. On peut imaginer, en tout cas Christian Daudet, que l'évasion du docteur Bougra a dû se raconter dans les cellules pendant des années et des années.
Oh là là, oui, c'était la légende au bagne, bien sûr. Et puis alors, il faudrait citer un autre bagnard qui était assez connu, c'était Dieudonné.
Ah oui.
Et Dieudonné a fait une évasion qui a cette particularité d'avoir précédé de quelques semaines celle de Bougra. Bougra. Mmh. Et comme à Paris, on critiquait énormément le bagne, l'administration, il y a eu des polémiques terribles après Dieudonné Bougra. Et c'était ça, ça se passait le 6 septembre 1928, le jour où on a découvert que Bougra était parti.
Alors nous allons faire une dernière pause dans cette émission. On se retrouve ensuite, on se retrouve au Venezuela, où le docteur Bougra va commencer une nouvelle vie extraordinaire. Un médecin adulé par les Vénézuéliens qui vont l'appeler El Santo.
Vous écoutez RTL.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Nous retrouvons Christian Daudet, le secret du docteur Bougra. Et je disais au début de l'émission, Christian Daudet, que en fait, il y a eu cette condamnation, évidemment, et puis cette évasion, qui vont donner lieu, en fait, à une bascule de comme il s'en produit très rarement dans la vie d'un être humain, une bascule extraordinaire, qui va faire que le docteur Bougra, qui refusera d'ailleurs toujours de rentrer en France, vous nous direz pourquoi dans un instant, va devenir vraiment à la fois un médecin des pauvres. Il faut dire qu'il arrive, je crois, pendant une épidémie assez sérieuse.
Il arrive au moment où il y a une épidémie de peste, dit-on. Je ne pense pas que c'était la peste, c'était plutôt une histoire de leptospirose, je ne sais quoi. Mmh. Mais enfin, il avait des connaissances parce qu'il était excellent médecin et il a sauvé la communauté de toute une petite province du Venezuela dans la région de Carupano et aussi dans le delta de la Macour où il a été. Et c'est ce qui a expliqué que le gouvernement de Gomez, le célèbre et féroce dictateur Gomez, ne le rende pas à la France, qui réclamait la restitution.
Bien sûr,
Et il était menacé d'être rendu, mais par ses bons services au Venezuela, Gomez a dit « Est-ce que ce médecin guérit ?» On a dit « Ah oui, il a fait ça. Alors s'il guérit, laissons-le guérir.
» Alors, il faut que vous nous expliquiez, parce qu'il va y avoir deux pôles dans la vie du docteur Bougra au Venezuela. L'un de ces pôles, c'est une petite île, je dis d'ailleurs, je ne sais pas si elle est petite,
Elle est assez grande, oui, c'est à peu près c'est comme la moitié de la Corse, à peu près.
L'île Margarita.
De Margarita, voilà. Alors, l'île de Margarita, c'est les Caraïbes vénézuéliennes, c'est la ceinture de feu caraïbe du Venezuela. Et cette île avait la particularité à l'époque d'être très pauvre. Mais Bougra a commencé d'abord par exercer dans la région de Carupano, où il avait atterri où il a sauvé ses populations de la peste. Et là, il a fait la connaissance d'une jeune italo-vénézuélienne extrêmement belle, que j'ai connue moi quand elle avait 80 ans.
J'ai été la voir.
Elle m'a pris les mains, elle m'a dit oh, vous parlez de mon mari. Ça a été une des grandes joies. Elle est morte 2 ou 3 ans plus tard, mais je l'ai rencontrée là-bas. Alors, il avait rencontré cette jeune italo-vénézuélienne.
Une histoire d'amour.
Le coup de foudre, elle était très jeune. Bougra aimait les filles quand il avait épousé sa femme, dont il a divorcé. Elle était beaucoup plus jeune que lui. Et là, ils avaient 20 ans de différence d'âge. Elle avait 18 ans, lui en avait plus de 40. Plus de 35. Ça a été un grand amour. Ils ont eu 4 enfants. Que je connais tous, sauf un qui était à Maracaibo quand j'étais au Venezuela et que j'ai pas pu rencontrer, mais les 3 autres, je les connais, et qui ont vécu un peu cette histoire-là sans savoir ce qu'avait fait leur père. Ils étaient persuadés que leur père avait été condamné pour une histoire politique, ce qui était un peu vrai, mais ils ne savaient pas la vérité.
Ouais. Alors donc, ils s'installent à Margarita, pour quelle raison ?
Ils fondent une famille, ils s'installent dans l'île de Margarita, parce que là, c'était très pauvre, il n'y avait pas de médecin, que de pauvres pêcheurs, et il a soigné les gens qui ne pouvaient pas payer les soignants gratuitement, il a soigné toute la population. Qui n'avait jamais vu un médecin à l'époque. Il faut voir ce qu'était le Venezuela des années 20. C'était vraiment la misère sud-américaine. C'était les bidonvilles quoi, de l'époque. Et cette île de Margarita qui est aujourd'hui touristique, moi quand j'y étais, j'étais à l'hôtel Concorde qui était un gigantesque palace. Je demande à être excusé par la mémoire de Bougra.
Après, il a fini par quitter cette île pour revenir à...
Mais je payais d'ailleurs la journée comme dans le moindre petit une étoile en France, tellement le Bolivar était bas à cette époque. Et alors Bougra donc a fait le bienfaiteur de cette île, et plus tard quand il est mort, on a dressé une statue, mais on va y revenir après. Alors il allait aussi 2 ou 3 fois par mois à Caracas, où il avait un cabinet, où là il soignait les richissimes caraquennes, ceux qui graissaient un peu ses épinards.
Ce qui lui permettait de faire la médecine gratuite
et de soigner les pauvres gratuitement, et y compris à Caracas, les filles engrossées pour la 10e ou 12e fois, qui faisaient des anges assez volontiers, pour éviter qu'elles se suicident.
Et
il a eu un rôle extraordinaire au Venezuela, Bougra.
Il est mort dans des circonstances assez particulières.
Oui.
En se rendant chez un ami, C'est ça, non ?
Non,
il a sonné à la porte et il s'est effondré.
Oui, alors, à Caracas, je l'ai rendu un peu malade à un combat de coq où il se sentait mal dans cette atmosphère atroce des combats de coq où il allait de temps en temps par distraction. Ouais. Et il a commencé un infarctus avec une première crise et tout. Et au bout de deux ou trois crises d'infarctus, il est mort à Margarita en 62, à l'âge de 69 ans, quelque chose comme ça. Et là, il était voisiné avec un médecin allemand qui avait été réfugié au Venezuela après la guerre de 39-40 pour d'autres raisons, qui lui était un excellent ancien officier de la Wehrmacht, qui était un homme absolument exquis, absolument cultivé, avec qui il sympathisait beaucoup, et qui avait été dans les tranchées à Verdun à la même époque que Bougrat, d'où la sympathie immense qu'ils avaient. Et quand Bougrat a fait sa crise, ça a été en appuyant sur le bouton de sonnette de son voisin. Et quand le docteur allemand a ouvert, Bougrat s'est effondré dans les bras de ce médecin allemand.
Voilà.
C'était un peu l'Europe réunie avant la date.
Alors, on arrive à la fin de l'émission, il faut le dire, vous l'avez dit très rapidement, sa tombe est toujours fleurie aujourd'hui.
Sa tombe est toujours fleurie et il y a une statue, un buste sur sa tombe érigée par reconnaissance publique
au
Venezuela.
D'un mot, mais vraiment d'un seul, il n'a jamais voulu rentrer en France parce que la France voulait le gracier.
Vincent Auriol proposait de le gracier, mais lui voulait la réhabilitation et la révision de son procès. Et il n'est jamais rentré, ce qui a été un grand chagrin pour lui, mais il était fixé là-dessus.
Quel homme, hein ?
Quel homme, quel destin surtout. Un destin qui se finit en chemin de lumière.
Je vous remercie beaucoup, Christian Dedet. Je renvoie tout le monde à ce livre, Le secret du docteur Bougrat, chez Phébus. En attendant de voir le film, et
dois dire que vraiment, ça
mais ça
un
serait
jour.
Une dernière justice à rendre à
Bougrat,
cet homme
oui,
extraordinaire.
Absolument.
Merci infiniment. L'émission est maintenant terminée. On retrouve Flavie Flamand dans un instant.
RTL, toujours avec vous.